C'est un des gros problèmes de ces détox qui sont vendus dans tous les sens, genre mais le jus de céleri détox, les green smoothies ou de faire des jeûnes trop prolongés. Sur le moment, peut-être diminuer un peu ton inflammation. Mais ça ne va pas t'aider à stimuler ces phases qui permettent de vraiment faire fonctionner le foie dans son intégralité. Phase 1 du foie, c'est une hydrolysation, c'est une oxydation et ça transforme une molécule en une molécule qui devient en fait un radical libre. C'est pour ça que là, on était à la phase 1, donc on a discuté un peu de cette transformation d'une molécule en une autre. Et après, ces molécules-là qui sont toxiques, elles doivent être transformées en d'autres molécules qui sont non toxiques, ce qu'on appelle la sulfonation, la méthylation, la glucuronidation. Les fibres, par exemple, alimentaires, justement, permettent d'éviter de séquestrer certaines toxines. Parce que l'autre chose, la détox, on n'a pas parlé de ça, du sommeil. Le sommeil active le système qu'on appelle notre cerveau lymphatique, qui permet l'élimination des toxines cellulaires.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec notre vision. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. Un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Allez, bienvenue sur un nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Ador. Salut, ça va ?
Mais bien, et vous ?
Ça va, nickel.
On a eu le temps de débriefer un petit peu avec toi avant pour élaborer le plan et voir un petit peu ce qu'on allait aborder. Vaste sujet, hein, qu'est le foie. Comment est-ce que tu vois tout ça ?
Ça commence fort. Hein.
Ouais, ça commence fort. Alors, il faut avoir la foi hein, pour répondre à comment tu vois le foie. Non, écoute, moi, je vois le foie comme vraiment un organe que j'appelle d'être le chef d'orchestre, en fait. Si tu veux, j'ai vu. Je vous avais dit que moi, je suis de base de formation médecin anesthésiste, et puis aussi j'ai fait pas mal de réanimation, donc médecine intensive. Et c'est vrai que tu te rends compte que les patients qui sont hospitalisés en soins intensifs, du moment que le foie lâche, c'est la fin. C'est un organe qui est pas remplaçable. Tu peux faire de la dialyse pour le rein. Tu peux bypasser le côlon et le système digestif pendant un moment en faisant de la nutrition parentérale, en déviant certains organes. Le cerveau, on est d'accord, tu peux pas le remplacer. Tu peux remplacer le cœur et les poumons avec des machines, tu vois, de faire la circulation extracorporelle, mais le foie, tu peux pas. Et le foie est assez fascinant dans le sens où tout le monde, et je pense que c'est un sujet que vous allez vouloir aborder, mais c'est la détoxification. Mais en fait, le foie est un organe complexe parce qu'il est là pour déjà éliminer effectivement les toxines qu'on accumule au fur et à mesure, tous les jours, toutes les minutes, qu'ils soient des toxines exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, ou les toxines endogènes qu'on produit nous-mêmes. C'est là pour détoxifier aussi les hormones, en fait. Tu métabolises les hormones d'une certaine façon pour les éliminer. Et puis on sait qu'il y a certains métabolites des hormones qui sont meilleurs que d'autres. On peut y revenir si vous voulez, par exemple pour les œstrogènes chez les femmes. Et puis l'autre chose, c'est toute la synthèse des protéines et des facteurs de la coagulation, donc pour en fait éviter que, si tu veux, le sang, c'est quand même assez magique comme il est fait. C'est que tu veux coaguler quand t'as une blessure, mais tu veux pas être trop coagulant pour pas tout boucher tes vaisseaux. Et puis le foie a des rôles dans ces mécanismes parce qu'il sécrète des facteurs de coagulation et des facteurs anticoagulants Et aussi une molécule super importante qui s'appelle l'albumine. D'ailleurs, on la dose souvent pour en fait voir ton état hépatique, parce que l'albumine, elle, c'est une molécule, une protéine qui en fait transporte toutes, notamment les hormones et d'autres protéines dans le sang dont tu as besoin. Donc en fait, le foie est réellement un chef d'orchestre.
Donc le foie, il est multifonctionnel dans notre santé. Ouais. On va d'abord approfondir la détox, parce qu'on en entend parler de partout, et on a vraiment envie qu'aujourd'hui tu places vraiment ta vision de la détox, et qu'on puisse comprendre et apporter aussi des conseils pratiques sur la détox, repérer des symptômes qui peuvent nous amener vers ça. Et puis après, on parlera de l'ensemble des fonctions du foie, le métabolisme énergétique, des protéines et son rôle aussi dans le sang. On n'en avait pas trop envisagé, mais ça a l'air super intéressant.
Beaucoup de mes informations quant à la détox du foie, c'est un terme utilisé un peu à tort et à travers. Comment est-ce que tu vois cela ?
Bah, déjà, il faut bien comprendre que la détox se limite pas au foie, en fait, déjà de base, parce qu'il faut bien comprendre que ton organisme, on est tellement bien fait qu'on sait quoi faire à quel moment, si tu donnes au corps ce dont il a besoin. Donc déjà, un des premiers points pour moi, qui est assez important dans cette notion de détoxification, j'essaie toujours de donner une image du tonneau aux gens, où en fait, si tu veux bien, l'idée, c'est que plus ton tonneau il est grand, plus tu vas avoir la capacité d'accumuler une certaine dose de toxines pour pas déborder. Et ça vient de ta résilience que tu vas créer par, en fait, l'entraînement physique a une énorme importance là-dedans, parce que justement ça te rend plus résilient à ton environnement, tout comme le sommeil, le mouvement, etc. Parce que finalement, on parlait de détox, un des premiers points, c'est de ramener les toxines de la périphérie vers le foie pour que ce soit processé. Donc là, on a le mouvement qui aide en fait à ce qu'on appelle le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un système qui ramène en fait de la périphérie. J'essaie quand même de vous donner les détails, parce que c'est important, mais si tu as ton système artériel qui amène les nutriments en périphérie, ça arrive dans des petits capillaires. Ensuite, il y a une partie du fluide et de certaines molécules qui partent, qui sortent des vaisseaux. Pour les ramener de la périphérie, tu dois activer ton système lymphatique. Et maintenant, on pense même que c'est probablement peut-être un organe qui est encore plus important que le système cardiovasculaire en tant que tel, parce que il a justement cette fonction de pompe et de ramener tes toxines vers le foie où là il est métabolisé. Donc ça, c'est déjà un premier principe.
C'est déjà la première partie du filtre, en fait.
Ouais, je dirais non, plutôt le conduit qui amène, qui transporte vers le filtre, exactement.
C'est une circulation parallèle à la circulation sanguine, la circulation lymphatique.
Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, elle est vraiment super importante. Tu vois, dès que t'en as des œdèmes, quand tu bouges pas assez, t'as ton système lymphatique qui s'accumule. Et en fait, ça génère de la fatigue. Justement, t'as une accumulation progressive des toxines qui peut pas être éliminée. Donc, par exemple, truc tout bête pour activer le système lymphatique, le mouvement, de marcher suffisamment et d'avoir des micro-mouvements durant la journée. Le rebounding, tu sais, de faire du trampoline. Parce que ça, c'est en fait ces effets-là. Moi, j'ai un trampoline à la maison et je fais du trampoline quasi tous les jours, 10 minutes, tu vois, pour essayer de stimuler ça. Ou tu as des moments où tu es assis à ton bureau, tu te sens que tu commences un peu à devenir léthargique, tu fais du trampoline, tout de suite, ça remet.
Tu fais pas de la corde à sauter, hein ?
Parce qu'il n'y a pas le même rebounding, tu vois.
C'est le mollet, le cœur du membre inférieur, quand même.
Ouais, exactement, ouais. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, un truc assez, on dévie du sujet, mais qui est hyper intéressant, qui s'appelle le Solar Push-Up. En fait, c'est une équipe américaine qui a montré qu'en fait, juste contracter ton mollet en étant assis, tu faisais baisser ta glycémie. Parce que le mollet, c'est le seul muscle dans le corps qui est totalement oxydatif. Et qui va consommer que du sucre, mais qui circule, en fait, parce qu'il n'y a pas d'accumulation de glycogène dans le muscle. Puis pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est fait de manière ancestrale pour marcher sur des longues distances pendant les longues heures. Donc, du coup, tu peux pas fatiguer ton muscle, ton solaire. Ça voudrait dire qu'on serait totalement incapable de marcher des longues heures. Donc, c'est assez intéressant.
C'est magnifique. Je recentre un peu le débat. Si on regarde cette détox, pourquoi le corps s'est armé de cet outil de protection, de filtre? Parce qu'il y a une grande exposition aux polluants, il y a aussi, comme tu disais, des toxines qui sont endogènes. Parle-nous un petit peu de pourquoi on a créé cette fonction corporelle.
Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je pense que ça revient, enfin, ça me permet de rebondir sur, effectivement, de vous expliquer
sans,
un petit
sans
peu.
Sans jeu de mots, hein.
Sans jeu de mots. Exactement. Le rebounding, c'était avant. Mais c'est pour dire que, en fait, il y a des phases de détoxification qui, je pense, sont très importantes. On discute ici. C'est qu'en fait, le foie, il reçoit les molécules et pour aller détoxer, il doit les rendre visibles par le foie, les rendre visibles par l'organe. Parce que tu imagines, t'as une molécule, bah, typiquement l'alcool, en tant que telle, si elle n'est pas d'abord métabolisée en acétaldéhyde, par une hormone qui s'appelle déshydrogénase, en fait, c'est ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1 du foie, c'est une hydrolysation, c'est une oxydation, et ça transforme une molécule en une molécule qui devient, en fait, un radical libre. Ça veut dire que qui a perdu un électron, qui devient hautement réactif. Cette phase 1, elle a besoin de protéines, elle a besoin de minéraux et elle a besoin de certains nutriments qu'on va trouver. Pardon ?
Besoin de fer.
Elle a besoin de fer pour certaines. Certaines. Non, c'est plutôt que le fer, il participe à certaines. Il est plugué dans certaines protéines en fait, qui fonctionnent pour activer cette phase. T'as différents acides aminés, le glutathion, vous avez entendu parler. Et puis, quand t'as cette génération de molécules qui sont avec ces radicaux libres, de l'autre côté, ces radicaux libres, tu dois pouvoir les maîtriser avec des vitamines antioxydantes, genre la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C, le magnésium, le manganèse, certains autres nutriments t'as besoin. Curcuma participe là aussi. De nouveau glutathion, certaines protéines pour permettre d'éviter d'avoir une accumulation de radicaux libres.
Et est-ce que la première étape de notre détox, ce serait pas la qualité de nos barrières, la barrière intestinale, parce qu'on voit que le foie, c'est le premier organe après la veine porte. Pour qu'on puisse intégrer les nutriments à travers la paroi intestinale. Et puis derrière, on met un filtre pour de suite avoir un garde-fou contre les toxines et les polluants.
Alors je te dirais oui et non. Enfin, c'est-à-dire que justement là, l'alimentation joue un rôle parce que finalement, le fait de manger des fibres, par exemple alimentaires, justement, permet d'éviter et puis de séquestrer certaines toxines et certaines choses que tu manges pour éviter de les absorber justement dans la veine porte comme tu dis. Et puis les fibres aussi plus le mouvement permettre d'activer la défécation, donc d'aller à sel, donc puis d'éliminer en fait ce que t'as éliminé par la phase 3 dont je vais parler après, qui est en fait l'élimination via de la bile. C'est pour ça que là on était à la phase 1, donc on a discuté un peu de cette transformation d'une molécule en une autre, et après ces molécules là qui sont toxiques, elles doivent être transformées en d'autres molécules qui sont non toxiques, ce qu'on appelle la sulfonation, la méthylation, la glucuronidation, qui nécessitent des acides aminés, comme par exemple la glycine, la taurine, de nouveau le glutathion, la cystéine, les vitamines du groupe B méthylées, parce que tu as besoin, les vitamines du groupe B sont fondamentales pour ces phases de détoxification hépatique, et tu à ce moment-là transformes des molécules qui sont toxiques, ont des molécules qui sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, et qui peuvent être à ce moment-là éliminées dans la bile.
Ça, je me permets, c'est un sujet important de ma compréhension de ça, c'est qu'à la base, les toxines sont majoritairement lipophiles, donc dans la graisse, et donc le corps, comme tu disais, sur la première étape de détoxication, va rendre hydrophile la toxine, avant d'être mis, entre guillemets, dans un sachet poubelle dans la deuxième phase de conjugaison. Et donc ça va faire des produits intermédiaires entre phase 1 et phase 2 qui seraient plus dangereux entre guillemets, parce que ça va faire des toxines qui sont hydrophiles alors qu'à la base on a des toxines qui sont lipophiles.
Alors pas tout à fait, c'est-à-dire t'as la molécule comme tu disais qui est plutôt liposoluble, qui s'accumule dans les graisses, tu veux l'éliminer. Mettons tu perds du poids, tu vas la faire circuler, elle va arriver au niveau du foie.
Des métaux lourds pour donner l'exemple qui sont stockés dans les graisses.
Exact, ouais. Mais ça, les métaux lourds, on peut en revenir après, mais la, la discrétion n'est pas forcément via ces phases, parce que les métaux lourds, tu dois les chélater. Donc, on a des chélateurs pour, en fait, les englober, et puis ensuite pouvoir les éliminer via l'urine, via les sels. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de l'ETA, les charbons actifs, l'acide fulvique, humique, ces molécules-là sont des
donc
chélateurs.
C'est pas cette voie-là pour les métaux lourds.
Non, mais c'est-à-dire que...
Mais
non,
tu vois, pour juste conclure ça, la fonctionnalisation, c'est que pourquoi on va transformer des molécules qui sont liposolubles en molécules hydrosolubles, c'est que nos émonctoires sont principalement aqueux.
Voilà, tout à fait. Mais c'est comme tu disais, c'est cette phase 2 qui les transforme les choses hydrosolubles, pardon. Mais l'important, c'est de se rendre compte que la phase 1 est là pour permettre de la reconnaissance, cette molécule doit être éliminée. Mais cette phase 1, elle est un peu, elle te rend vulnérable parce que justement, elle crée ces radicaux libres. Donc, tu dois justement avoir suffisamment de molécules antioxydantes, dont le glutathion, pour aller blunter, empêcher l'effet de ces radicaux libres qui se propagent. Parce que les radicaux libres, ça crée un stress oxydatif, puis ce stress oxydatif génère à long terme de l'inflammation qui s'auto-entretient et qui génère, des problèmes au niveau hépatique.
Et aussi, c'est la bonne fonction des deux phases, de la phase 1, phase 2, qui permet une bonne détox. Parce que si on a une phase 2 qui fonctionne moins bien, par exemple, on n'a pas assez de glutathion ou de méthylation derrière, on ne va pas pouvoir mettre un sac poubelle pour pouvoir les éliminer après.
Très juste, ouais, c'est par exemple on parle souvent de ça. Alors le café pour moi est très bon pour la santé parce qu'il y a des antioxydants, des polyphénols qui sont intéressants à l'intérieur, mais il faut faire par exemple attention chez certaines personnes parce que le café active, c'est ce qu'on appelle les cytochromes P450 qui sont des enzymes justement qui transforment les molécules dans cette phase 1 et tu pourrais avoir une suractivation de la phase 1 qui ne serait pas poursuivi par la phase 2 parce que tu manquerais de nutriments en étant à jeun prolongé avec juste du café, et tu pourrais justement activer ces mécanismes en fait d'oxydation.
Donc pour reprendre, on a tout un tas de cofacteurs qui vont servir à cette voie de détoxification, ce rôle d'émonctoire qu'a le foie. Donc c'est pas juste une molécule détox que je vais prendre qui va m'aider à le faire, c'est bien plus complexe que ça, c'est tout un tas de micronutriments qui vont permettre de remplir la fonction de toute cette voie de détoxification.
Exactement, ouais, c'est, je pense, un des gros problèmes de ces détox qui sont vendus dans tous les sens, genre le jus de céleri détox, les green smoothies ou de faire des jeûnes trop prolongés, c'est qu'effectivement, si tu prends une molécule isolée, ça pourra t'aider dans la phase 1, mais
peut-être ça marche, parce que tu étais carencé, mais c'est...
Oui, et surtout, ça peut, par exemple, tu prends du chardon-marie, ça va diminuer le stress oxydatif qui est créé par la phase 1. Donc, ça va probablement, potentiellement, sur le moment, peut-être diminuer un peu ton inflammation. Mais ça va pas t'aider à stimuler ces phases qui permettent de vraiment faire fonctionner le foie dans son intégralité. Vraiment un des bons exemples, c'est les vitamines du groupe B. Que tu vas par exemple trouver à l'époque, ils mangeaient des organes. Ils mangeaient beaucoup plus des abats que maintenant qu'on mange plus. Ils mangeaient plus d'abats que de viande rouge. Or, maintenant, on n'en mange plus. Puis après, j'ai rien contre le fait d'être vegan, mais souvent, j'ai des biomarqueurs chez des patients vegan qui sont très mauvais parce qu'ils sont déficients en vitamine du groupe B, notamment la B12 qui est très difficile à trouver dans l'alimentation vegan, et puis en protéines, dont les acinaminés dont on parlait, glycine, la cystéine, la taurine, qui sont quand même trouvées dans la taurine, c'est le plus dans le poisson d'ailleurs. Et puis par exemple la méthionine et même la créatine, qui participent aussi à cet apport de groupe méthyle à tous ces mécanismes de détoxification.
Oui, parce que la méthylation, donc l'ajout d'un groupe méthyle, est essentiel pour ces molécules taurine, créatine. On a vraiment besoin de cette méthylation, et c'est les vitamines B qui permettent le bon fonctionnement de cette méthylation.
Ouais, exactement, les vitamines du groupe B méthylé. C'est pour ça que maintenant tu trouves beaucoup de plus, enfin les suppléments de qualité. Quand il s'agit des groupes B, il faut prendre de la méthylcobalamine pour la B12 et pas de la cyanocobalamine. la cyanocobalamine, ben dans cyano, il y a cyanure, t'imagines, tu prends quand même des petites doses de poison, en fait, chaque fois que tu prends de la cyanocobalamine, qui est de mauvaise qualité, puis c'est le méthylfolate. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui maintenant ont des mutations dans un SNP, ça veut dire single nuclear polymorphisme, qui ont une mutation du MTHFR, donc qui métabolisent pas correctement le folate en méthylfolate dont tu as besoin pour ce cycle de méthylation. Donc tu consommes des groupes méthyl dans ton corps que tu peux pas utiliser pour autre chose, et ça fait des répercussions en chaîne.
Oui, c'est qu'il y a tout plein d'étapes intermédiaires avant d'avoir la forme finale active que va pouvoir utiliser le corps.
En fait, c'est ça la méthylation pour ceux qui nous écoutent, c'est comme une clé. On va activer une molécule, ou aussi cette méthylation peut intervenir aussi sur le génome, où on va pouvoir plus ou moins transcrire un gène.
Et puis la méthylation, elle a un rôle assez clé dans aussi l'élimination, enfin la méthylation de l'homocystéine. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un marqueur cardiovasculaire qui est un peu ignoré, mais qui est vraiment important, parce que l'homocystéine,
qui est pas ignoré chez 1000%, tu sais.
Alors tant mieux, parce que c'est vrai qu'il est très important, parce que l'homocystéine, en fait, elle participe à quand elle est en excès, en fait, elle vient inhiber je ne sais plus quelle enzyme au niveau de l'endothélium, donc la cellule endothéliale au niveau de la paroi vasculaire, et qui en fait diminue la production de nitrite oxyde, qui est l'oxyde nitrique, c'est le vasodilatateur. Donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de problèmes cardiovasculaires qui sont en lien à l'homocystéine pour cette raison. Et l'homocystéine a besoin de groupe méthyl pour être éliminé dans le cycle en S-adényl-méthionine, et puis je vais pas rentrer dans ça, c'est un cycle assez complexe, mais qui permet d'effectivement diminuer ce marqueur. Et moi, je donne souvent aux gens alors déjà, faut chercher l'étiologie, parce que souvent c'est en lien justement avec une inflammation exacerbée, mais tu peux donner de la triméthylglycine à des gens qui ont l'homocystéine, et tu la vois diminuer. Et du coup, tu diminues ton risque cardiovasculaire et inflammatoire au niveau hépatique, parce que tout se recoupe.
Mais d'où la problématique aussi de se supplémenter dans des formes qui ne sont pas méthylées et qui peuvent s'accumuler par une problématique enzymatique. On te donne la forme inactive de la vitamine. Tu n'as pas l'enzyme ou le complexe enzymatique, ou en tout cas, il n'est pas efficient comme il devrait être pour tout un tas de raisons. Et on se retrouve à avoir une accumulation de folate, par exemple, alors qu'on aurait plus bénéficié de l'accumulation de méthylfolate.
Ouais. Absolument. Ouais.
Pour revenir sur cette détox, qu'est-ce qui... Donc là, on a compris que c'était plusieurs phases, donc la barrière intestinale, les deux phases de détoxification du foie, et il y a aussi l'élimination qui serait sûrement la dernière phase de...
Exact, ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle la phase 3. En fait, une fois que t'as créé la molécule, il faut l'externaliser. Ouais. Donc elle va être externalisée via la bile. C'est un système qui est très bien fait, parce que t'as cette vésicule biliaire qui accumule la bile. La bile, elle a plusieurs fonctions. Elle sécrète des acides biliaires. Donc dans les acides biliaires, justement, on a l'ursodéoxycholique acide avec la taurine, justement le TUTCA, qui est d'ailleurs un supplément qu'on peut prendre pour améliorer cette fonction, un acide aminé très intéressant. Mais ces acides biliaires, ils permettent quoi? Ils permettent en fait ce qu'on appelle la saponification des graisses. Ça veut dire qu'ils permettent de en fait les graisses que tu manges, fragmenter les graisses pour créer des nanoparticules, un peu une émulsion, pour que tu absorbes non seulement les graisses, mais aussi toutes les vitamines qui sont liposolubles. Ça veut dire la vitamine A, D, E, K. Et donc, les personnes qui ont, par exemple, une cholécystectomie, c'est-à-dire qu'on leur enlève la vésicule biliaire, ont souvent du mal à digérer des graisses pour cette raison. Et tu dois leur donner des enzymes. La bile, il y a aussi des enzymes. Et puis, c'est aussi le moyen d'éliminer les toxines. Par exemple, aussi d'éliminer le cholestérol en excès. Donc, tu dois sécréter cette bile. Donc, pour sécréter cette bile, il faut quoi? Il faut qu'on appelle des sécrétagogues. Les Nordiques sont très bons pour ça, parce qu'ils ils prennent souvent avant le repas des petits shots d'herbes amères qui sont des sécrétagogues, parce qu'ils stimulent la vésicule biliaire. Il y a la rucola, il y a les dents de lion, il y a certaines herbes en fait comme ça amères qui permettent ça. Et puis après, en fait, il faut imaginer qu'effectivement, du moment que tu les as éliminés, que tu les as passés dans le système digestif, il faut activer le transit. Et c'est ce que je vous disais, c'est que d'être constipé, c'est vraiment un red flag. C'est pas normal de pas aller aux toilettes tous les jours. Il faut avoir un transit régulier pour justement éliminer. Il y a des gens si tu laisses constamment, tu vois, les selles s'accumuler, tu vas avoir une réabsorption. Ça s'appelle le cycle entéro-hépatique. Et puis celui-là, tu veux éviter qu'il soit trop présent, parce que sinon tu vas réabsorber les toxines qui vont pouvoir être réaccumulés dans l'organisme.
Oui, ça, c'est quand on a un cas de dysbiose au niveau de notre microbiote. Globalement, les mauvaises bactéries vont être friandes du glucose, de l'acide glucuronique, je crois, et vont manger un petit peu ce sac poubelle de la toxine et la toxine va re-rentrer dans le système pour augmenter la charge toxique.
Ouais, alors ça c'est vrai qu'il y a même les certaines bactéries de ton microbiome ont des capacités, on sait qu'il y a des acides biliaires primaires, puis il y a certains acides, après ils sont transformés à des acides biliaires secondaires et dont certains sont positifs ou d'autres négatifs au niveau effectivement du tractus digestif, créer de l'inflammation ou pas.
Donc là on voit vraiment que il y a vraiment ce système digestif, ce foie, cette élimination. On a eu la chance d'avoir professeur Castronovo juste avant, donc on a posé quelques questions pour préparer ce podcast. Et il nous a alerté sur l'acidité au niveau du rein, qui pourrait chinter un petit peu les enzymes et perturber la fonction d'élimination du corps.
Ouais, alors c'est vrai, c'est qu'on sait qu'un pH acide au niveau rénal peut perturber, en fait, parce qu'il y a une partie qu'on élimine dans les selles, mais une partie qu'on élimine dans l'urine, et le pH urinaire va dépendre de si tu veux, le rein, il fonctionne, tu filtres via le glomérule, après ça passe dans différents canaux, l'anse de Henle, certains tubules, et puis en fait, en fonction du pH urinaire, tu vas plus ou moins réabsorber certaines molécules. Et là, effectivement, le pH acide va favoriser l'absorption de toxines, alors que le pH alcalin, donc un pH basique, va permettre une meilleure élimination. Et ça, effectivement, la diète, ce qu'on appelle le pral, je ne sais plus pourquoi, ça, c'est un index en fait, d'acidité de certains aliments, va conditionner un petit peu ton pH urinaire. Alors le pH sanguin, il est très finement régulé, parce qu'en fait, le pH, c'est comme le glucose, c'est incroyable quand même quand tu penses, comme le corps est bien foutu, parce que c'est une échelle logarithmique, le pH, mais un tout petit peu plus d'acidité, t'es au soin intensif, quoi. Donc le pH urinaire est le pH sanguin est très bien régulé. Par contre le pH urinaire, il est quand même dépendant de ce que tu manges. Et les choses basifiantes, ça va être les légumes, ça va être les aliments qui sont naturels, pas processés. Et puis ce qui est acide, ça va être plutôt la viande rouge, les céréales préfabriquées, qui est en fait un peu le reflet de la diète occidentale.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles, ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10, lien et code en description. Retour au podcast. Donc, si on veut stimuler ce mécanisme d'élimination, tu parlais de la constipation. Est-ce que finalement, le reflet de la société, c'est pas de rajouter des fibres dans l'alimentation pour stimuler cette élimination via la voie digestive, pour éviter justement ces phénomènes de constipation, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ça peut refléter aussi des intolérances alimentaires, cette constipation, mais également d'essayer de garder une hydratation optimale pour éliminer ces urines, d'éliminer les déchets via la voie urinaire le plus possible.
Ouais, exactement. Je dirais, si j'ai trois conseils à donner aux gens pour éviter d'être constipé, le premier, effectivement, augmenter l'apport en fibres dans l'alimentation, mais ça va être des fibres solubles et insolubles. Je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais il y a différents types de fibres qui sont bons pour nourrir tes bactéries.
Il y a des tableaux sur Internet, vous cherchez.
Ouais, tu vois, par exemple, on parle du chia seed ou du psyllium qui, en fait, augmente la taille des selles pour la propulsion. Et puis, effectivement, l'hydratation, elle a un double rôle, c'est qu'elle permet aussi d'augmenter le volume et donc d'éviter que tes selles soient trop dures, quoi, soient trop solides pour faciliter l'élimination. Déjà, ça, c'est important. Les gens ne boivent pas assez. Il faut boire au minimum 2 à 3 litres d'eau par jour. Et puis aussi pour effectivement l'élimination urinaire. Ça, c'est très juste. Et puis, donc là, j'ai dit fibres et l'hydratation. Et l'autre chose, c'est le mouvement.
Et du coup, c'est facile la détox alors?
Franchement, sincèrement, si tu manges correctement, tu fais de l'exercice et que tu dors correctement. Parce que l'autre chose, la détox, on n'a pas parlé de ça, du sommeil. Parce que le sommeil active le système, ce qu'on appelle dans le cerveau lymphatique, qui permet l'élimination des toxines cellulaires. C'est là que tu régénères ton corps, c'est là que tu actives des processus de régénération dans tous les organismes, que tu augmentes ton hormone de croissance, donc la réparation, etc. Donc finalement, c'est très simple, tout en étant ultra complexe, mais c'est en tout cas pas, ça se limite en tout cas pas à ce qu'on entend dans, pas mal dans les...
On veut des raccourcis. Ouais. En fait, c'est ça. Tout le monde veut des raccourcis et de prendre la molécule.
On veut une détox facile, nous, hein. Il faut aller vite, là.
Non, mais c'est ça la problématique. Ouais. C'est que les gens oublient la base. Et juste pour finir, parce qu'on a parlé du foie, on a parlé des reins,
de l'intestin,
et il y a encore un autre émonctoire au niveau pulmonaire.
Il y a la respiration, effectivement. Bah, ça, c'est sûr que tu peux.
Et la sudation.
Moi, je suis un grand fan de sauna. C'est un très très bon moyen d'éliminer les toxines. Alors, les saunas traditionnels, les chiffres de ce qu'on élimine comme pesticides, comme mycotoxines, comme métaux lourds, c'est pas énorme, mais ça a l'autre effet positif de stimuler ton système lymphatique, qu'on disait, donc la
microvascularisation,
la récupération des toxines de la périphérie, et l'activation de la circulation, parce que t'as ta pompe cardiaque qui se met en marche, tu fais une vasodilatation, et puis aussi l'activation, de par ce stress hormétique, d'un renfort de la voie NRF2, qui permet l'augmentation de la superoxyde dismutase, la catalase, qui sont deux enzymes en fait endogènes, qui sont les plus puissants antioxydants qu'on a, c'est en fait des antioxydants qu'on produit nous-mêmes.
Donc ouais, tu le vois comme un stress hormétique, et donc cette transpiration, c'est un émonctoire, donc on va éliminer les toxines par la transpiration, mais on va aussi alerter notre système lymphatique, c'est ce que tu dis.
Ouais. Surtout, ouais, parce que tu n'élimines pas énormément dans la sueur.
Mais t'actives le système.
T'actives le système, quoi. Tu refais.
Et est-ce que via l'activité physique et le travail, par exemple, aérobie, le fait d'être essoufflé, donc tu viens stimuler ce système qui est un émonctoire au niveau pulmonaire et des alvéoles, est-ce qu'il y a une élimination
t'élimines certaines molécules volatiles, tu vois, l'alcool, ça s'élimine par la, c'est pour ça que d'ailleurs on fait des tests, des éthylomètres dans l'inspiration, parce que tu l'élimines à cet endroit-là, t'as certains corps cétoniques, tu as l'acétone que tu expires, mais les toxines, les métaux lourds, tu les expires pas. Mais évidemment que d'avoir une activation physique où tu vas respirer plus, ça veut dire que tu vas activer plus ta pompe cardiaque, tu vas faire plus de circulation dans des tissus qui sont peut-être mal vascularisés, que notamment le tissu adipeux est pas très bien vascularisé, tu vois, quand il est trop important, le tissu adipeux gras, blanc. Et puis, bah, évidemment que l'exercice physique joue un rôle dans l'amélioration de ta santé métabolique, donc ta fonction mitochondriale, et puis aussi d'éviter, ça se fait quand même consommer plus de calories, donc ça t'évite de prendre du poids, basiquement.
Tout à l'heure, tu as parlé du sommeil. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur la chronobiologie du foie et de mettre en avant que le foie travaille pendant notre nuit?
Ouais, c'est juste, c'est vrai que je suis fan de tout ce qu'on appelle les rythmes circadiens, en fait, les horloges biologiques. Et évidemment que ton foie, si tu veux, c'est un des moments où il régénère, il travaille énormément la nuit. Et c'est vrai que c'est important d'imaginer que tu le surcharges pas en ayant des repas, par exemple, trop tardifs ou des aliments ou des dîners qui sont trop riches, parce qu'effectivement, ça empêche le travail vraiment fondamental du foie.
Ça décale ton endormissement, donc du coup, ça vient perturber le...
Ouais, ça décale l'endormissement, et puis surtout, en fait, ça fait fonctionner le foie pour certains mécanismes qui sont pas alloués à ce qu'il devrait faire au moment de la nuit, quoi.
Ouais, s'il est occupé à gérer la digestion, il n'est pas occupé à faire autre chose.
Ouais, et puis même, il y a des j'ai écouté un podcast récemment aussi sur l'activation de certains gènes, tu vois, de certains oncogènes par le fait de manger trop tard, donc des gènes de cancer, et puis certains gènes de réparation qui au contraire sont bénéfiques, sont supprimés. Enfin, c'est vraiment, moi je suis fondamentalement convaincu qu'en fait le rythme qu'on a veille-sommeil avec la lumière, l'exposition à la lumière, il est dans la balance, peut-être même 50-50 par rapport à l'alimentation, tu vois. Parce que finalement, si tu vois pas, comme aujourd'hui, tu en as été toute la journée dedans et tout, tu te ressens sur ton énergie et sur le phénomène que si une journée ça passe, mais si tu fais ça tous les jours, tu vas créer de l'inflammation, tu vas perturber tes rythmes de sommeil parce que tu vas pas avoir autant de mélatonine le soir, tu vas pas activer ton cortisol de la même façon que tu le ferais que si tu vas dehors à la lumière du soleil. Donc c'est des impacts qu'en fait les gens négligent.
Et là, si on peut être un peu concret pour les auditeurs, parce que là tu recommandes de pas faire des repas trop important le soir pour pas perturber son rôle d'émonctoire qu'a le foie. Mais moi, on m'a dit que c'était pas mal de faire un jeûne intermittent. Je fais un pied de nez. Et donc, du coup, comment je me retrouve? Mais on m'a aussi dit de consommer 1,5 g, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour.
Non, mais c'est une très bonne question.
Et du coup, je suis bloqué avec ce que tu viens de dire. C'est que là, je sais plus comment faire, je suis perdu.
Bah, en plus, je vais te dire que moi, je suis aussi dans cette configuration. Je dirais que pour quelqu'un qui ne fait pas de sport pour l'instant, qui a des problèmes de perte de poids et de sédentarité, effectivement, on dit quand même de manger trop tardivement, proche du sommeil. Il faudrait éviter deux à trois heures avant de manger un gros repas.
Faut du bon sens aussi si on regarde les gens. Ils mangent pas beaucoup le matin, ou du moins pas beaucoup le premier repas, le dîner ils ont pas le temps, le déjeuner ils ont pas le temps, et le dîner ils se font plaisir. Et donc en fait, manger c'est aussi apporter de l'énergie dans la journée, et donc de revoir cet apport d'énergie à travers le repas, avec maîtriser le premier repas, le deuxième repas, et de manger de moins en moins vers le soir, comme nos anciens faisaient, à manger une petite soupe, une petite salade. Ça avait quand même nos anciens, ils avaient aussi beaucoup de bon sens.
Alors, je vais te dire que je suis tout à fait d'accord d'un point de vue théorique avec tout ce que vous venez de dire, et que c'est souvent ce que je reconseille aux gens.
Mais c'est la personnalisation.
C'est la personnalisation, puis c'est aussi juste pratiquement qu'est-ce que ça représente dans la vie réelle. Par exemple, parce que moi, je fais exactement l'inverse de ce que je dis, mais je vais vous dire pourquoi et comment. C'est-à-dire que le matin, moi, je suis très fonctionnel si je mange pas le matin. Donc je fais plutôt du jeûne intermittent où le matin je mange pas, parce que c'est là que je suis focus, mon cerveau fonctionne bien, j'aime m'entraîner à jeun. C'est pas un repas que tu prends qui est très social, parce que tout le monde est un peu vague à ses activités, tu te lèves pas toujours forcément aux mêmes heures avec la personne avec qui tu vis. Bref, c'est pas un repas que je prends beaucoup. Le mat à midi, j'aime pas, je mange plutôt on va dire assez keto, enfin des protéines, suffisamment de protéines, peut-être des baies rouges comme ça, mais assez low carb, parce que je sais que si je mange trop de carbone, ça me donne un coup de mou pour l'après-midi. Et du coup, on arrive à 5-6 heures où j'ai fini ma journée de travail, 7 heures, des fois je suis encore des fois en clinique en anesthésie, où je rentre. Moi, j'aime m'entraîner le soir, donc je m'entraîne, je fais mon sauna, et puis évidemment qu'après, ben, j'ai faim. Donc, mais là, j'ai un peu hacké mon système de manière à ce que je mange, je vais aller plus vite au bon endroit. Je vais pas avoir de shift glycémique aussi important que pour quelqu'un qui aurait mangé trop le soir et qui est sédentaire. Et du coup, je vais privilégier le repas du soir parce que je mange avec ma famille, je suis calme, ou je vais manger en société avec des amis, ou j'ai un repas de travail. Et c'est le moment où, en fait, moi, je suis assez, c'est un peu un achiever, un doer durant la journée. Donc, je suis pas très focus à l'alimentation. Par contre, le soir, j'aime bien me poser et manger correctement. Mais ça veut pas dire que déjà, je me fais plaisir en mangeant, mais des bonnes choses, donc c'est sain. Je vais manger suffisamment de protéines, mais c'est vrai que les protéines, je vais plutôt les manger sur le repas du midi pour éviter d'avoir trop de protéines le soir. Et puis là, je vais plutôt faire justement ce qu'on appelle du carbo-refeed un peu. Moi, je fais ce qu'on appelle du keto backloading. Ça veut dire que durant toute la journée, quasiment, je suis en cétose. Ouais. Et je mange mes hydrates de carbone le soir après mon entraînement pour refueler mes muscles, pour faciliter, parce qu'on sait que les carbs permettent d'améliorer le sommeil. Le mécanisme du fait que tu augmentes la sérotonine et la mélatonine dans le cerveau, tryptophane exactement, et du coup je mange les carbs, mais sans dire que je vais me faire une plâtrée de 300 grammes de pâtes le soir, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est de nouveau, c'est une personnalisation, et ça me convient, et j'ai vu que mon sommeil était bon avec ça. Donc si quelqu'un vient te dire ça, et puis que tu vois que ces biomarqueurs ils sont parfaits, que le gars il va très bien, tu vas pas lui dire non, il faut que tu déjeunes, il faut que tu vois. Mais c'est clair que les études à large échelle dans des grandes populations, on voit que on voit que le jeûne intermittent, le early restriction time feeding, c'est-à-dire que tu manges plus tôt dans la journée que plus tard, et c'est mieux.
Et moi à l'inverse, je me suis testé, et ce qui me convient, c'est l'inverse. Je vais maîtriser mon alimentation par le matin. Et j'ai vu que quand je mangeais, j'avais mis le capteur à glycémie, et quand j'avais une grosse charge glucidique le soir, Je dormais dans le sucre, j'étais en hyperglycémie toute la nuit. Donc vraiment, je pense que le message, c'est la personnalisation, voir ses sensations, les confronter à ses sensations. Et si on recentre encore sur le détox, parce que...
Attends, après tu repartiras peut-être. Okay. Mais est-ce que tu conseilles de faire un... Parce que là, tu es sur une restriction de prise alimentaire dans ta journée. Mmh. Tu n'as que deux repas. Mmh. Tu conseillerais pas d'avoir un snack intelligent, hein, un goûter intelligent où il y ait des protéines, parce que il y a quand même cette problématique d'avoir suffisamment d'abord protéiques, et je trouve que c'est un vrai dilemme en termes de quantité.
Mais tu vois, 1-2 grammes à 1.6 grammes poids corporel par jour, je pense que sincèrement 1.4, 1.5, même si t'es actif,
mais c'est beaucoup, hein.
Ouais, c'est beaucoup, mais moi j'arrive, tu vois, je mange par exemple à midi, je mange 5 œufs, t'as un bon apport, puis après puis y a du skir. Et puis t'arrives à 60 grammes de prot à midi, et puis t'en rajoutes, oui, 40 le soir, ça va, hein, c'est pas. Et puis en fait le truc, c'est que moi j'aime, en fait personnellement, il y a plein de gens que je connais qui se sont mis à ça, c'est que quand tu manges, tu te fais un bon repas et tu snacks pas. Parce que ça m'apporte rien, mais ça veut dire, mais en même temps, si je fais genre du vélo, tu vois, si je fais 3 heures de vélo durant l'effort, déjà je vais refueler normalement, je fais 3 heures, et puis probablement je vais manger une petite collation en revenant pour pas avoir de down et puis pour pas aller me cataboliser d'un point de vue, oui, musculaire. Mais je pense qu'aussi il faut faire attention que, à mon avis, gentiment, parce que c'est très médiatique,
on se trompe, il y a des influenceurs,
ouais, on en mange beaucoup trop.
Ah ouais,
c'est pas bon, le 0.8 les recommandations
je pense que les gens ils
sont pas du tout assez. Mais l'américanisation de 1.6, 2.2 grammes kilo poids corporel, oui, par jour,
on se trompe.
C'est pas juste. Parce que va manger 2 grammes kilo poids corporel par jour de protéines, il y a plein d'autres nutriments que tu vas pas manger du coup, parce que ça va te couper l'appétit. Mmh. Et puis oui, alors c'est clair que la protéine, elle a un effet thermogénique plus important, donc ça peut être intéressant de manger autant de protéines si tu es en phase de perte de poids. Mais pour quelqu'un comme vous qui est en forme, qui est jeune, qui est athlète, il y a aucune raison d'en manger autant.
Mais si on reste sur le 1,5 g, moi je suis convaincu que les gens n'y sont pas, hein, pour non, peser non, et d'avoir regardé. Tu me dis peut-être effectivement le but, c'est pas d'être dans le haut des deux fourchettes, mais quand même le milieu, oui, reste quand même quelque chose d'assez élevé, mais, et qui, oui, est plus, vois, élevé si que la 7 moyen.
Si tu le hack avec, comme je te dis, tu prends 4-5 œufs à midi. Oui. Un skir 200 grammes.
Avec une assiette keto le midi.
Des baies rouges, du machin, un truc, ça va. Puis après le soir, c'est des légumes, par exemple des sardines, du poisson ou une viande, machin, du poulet, du fromage. Moi, je mange pas mal de fromage, des légumineuses. Tu as des fromages à pâte dure. Parce que là, t'as des ferments, t'as des probiotiques, t'as des nutriments qui sont intéressants. Tu as le fromage, genre le pecorino, enfin, c'est vieux fromage, plutôt vache, enfin, plutôt brebis, chèvre. T'y arrives. T'y arrives.
Mais ouais, comme tu dis, peut-être être modeste face à nos connaissances, et on se fait peut-être embarquer aussi par un empirisme des protéines, de la chronobiologie.
Oui, parce que tu vois, on parle de la whey, par exemple. Pour moi, c'est de la junk food. Je dis pas que j'en prends pas, mais c'est quand même
c'est ultra transformé.
La protéine ultra transformée.
C'est raccourci.
C'est comme le collagène. Je veux dire, tu sais d'où ça vient. Je veux dire, c'est des carcasses d'animaux. La source, elle est quand même souvent un petit peu sombre. On sait pas trop d'où ça vient. Enfin, je veux dire, faut quand même se rendre à l'évidence que tous ces trucs packagé, ça reste de l'alimentation processée.
C'est parti, je ressens le débat sur la détox. Si on prend un peu de recul, c'est que notre corps est soumis à des toxines qui sont exogènes, qui sont endogènes. Et donc, les végétaux, en fait, c'est juste un rôle de protection. Ils vont nous mettre des petites toxines pour éviter qu'on vienne manger tous ces végétaux. Mmh. C'est un système de protection des végétaux. Donc, il y a un regard entre le monde végétal, le monde animal. Et puis après, il y a aussi la question de nous, on produit notre propre toxine aussi. Mmh.
Exactement. Alors, en fait, bon, les toxines, tu vois, moi, je pense que les toxines vraiment qui sont impactantes pour notre santé, c'est plus, tu vois, les pesticides, les PFAS, oui, les métaux lourds, le téflon, tous ces trucs. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle les xénohormétiques. C'est des, en fait, les petits poisons toxiques des, oui, plantes qui sont, même les polyphénols, c'est ça.
Les polyphénols.
Mais ça renforce notre organisme, parce que les gens ne comprennent pas, c'est pas des antioxydants, c'est des polyphénols qui viennent même au niveau de ton microbiome intestinal produire ce qu'on appelle des postbiotiques, comme par exemple l'urolithine A, je sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
L'urolithine A, c'est une molécule qui est produite à base de base normalement de l'acide ellagique que tu trouves dans la grenade, et une bactérie dans l'intestin qui s'appelle Akkermansia muciniophina permet de synthétiser l'urolithine A qui fait de la mitophagie, qui permet en fait de manger les mauvaises mitochondries puis de synthétiser les nouvelles. Et ben ça, c'est un polyphénol. Et en fait, il y a plein de polyphénols. Bon, on parle, tu vois, les anthocyanines qu'il y a dans les myrtilles, les flavonoïdes, dans le café, il y a l'acide trigonellique, etc. C'est des molécules qui sont, en fait, des petits poisons qui renforcent notre organisme. Et derrière ça, ton organisme vient produire des molécules antioxydantes qui sont endogènes.
C'est là où je veux t'amener, c'est qu'à la base, les toxines végétales sont à petite dose,
ouais.
Et donc vont avoir plutôt un rôle hormétique en fait dans notre corps. Et là maintenant on est face à une société où on est exposé aux polluants, aux médicaments, aux pesticides, par l'eau, par nos aliments, par l'air qu'on respire.
On est attaqué de partout en fait.
On est attaqué de partout et c'est un vrai sujet. Et donc la détox prend toute sa place maintenant face à.
C'est ce que je vous disais, c'est en fait moi je pense qu'il faut, on sait qu'on est intoxiqué, donc
ouais.
Maintenant il faut essayer de réduire où on peut, tu vois, c'est à filtrer ton eau. Filtrer ton air à la maison, essayer d'ouvrir les fenêtres, essayer d'acheter le mieux possible en termes de légumes, du bio, acheter des aliments dont tu sais plus ou moins d'où ils sont, essayer d'éviter de cuisiner avec du téflon et puis des instruments en silicone, etc. Mais d'un autre côté, à mon avis, ce qui est le plus fondamental, c'est de comprendre comment améliorer ta fonction hépatique. Et ça revient à ce triptyque de la nutrition, du sommeil et puis du mouvement, où j'intégrerai là-dedans dans le mouvement le sport, mais aussi l'exposition à l'environnement à l'extérieur. On est beaucoup trop à l'intérieur. Tu vas dans un hôtel, tu vas dans la douche, ça sent le moisi, quoi. T'es exposé à des moisissures de champignons parce que c'est
mycotoxique, ouais.
Et donc là, tes patients, donc on est tous exposés. L'idée, c'est de réduire l'exposition. C'est aussi d'augmenter notre capacité de détoxification du foie. Quels sont les symptômes qui t'amènent, quand tu vois un patient, à te dire « Ok, là, il y a quelque chose à faire sur la détox ». Quels sont les points d'alerte où tu pourrais donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent se dire « Ok, il y a peut-être quelque chose à faire sur la détox ».
On revient à cette idée du chef d'orchestre qui est ton foie. Et en fait, c'est un organe qui est intéressant parce que à la fois il est le chef d'orchestre mais il est indolore parce que il est pas innervé par des nerfs, donc tu sens pas ton parenchyme hépatique à moins que t'aies une élongation de la capsule qu'on appelle la capsule de Glisson qui est autour du foie. Mais du coup en fait ça va être des symptômes annexes secondaires, donc ça peut être un ballonnement intestinal justement parce que t'élimines pas, tu vois, t'élimines mal la bile, ça, donc tu peux pas avoir une dysbiose là-dessus, donc tu peux avoir des troubles du transit. Tu peux avoir le brain fog, le brouillard mental sur le fait qu'il y a une grosse connexion entre le foie et le cerveau. La barrière hémato-encéphalique va être perturbée, du coup tu vas avoir des passages de toxines à l'intérieur parce que justement tu as une mauvaise détoxification hépatique. Tu peux avoir des problèmes d'hypertension, des problèmes d'inflammation. Tu peux avoir des gens qui ont même des problèmes cardiaques là-dessus, quoi. Tu as des troubles de respiratoires. Il y a énormément de symptômes.
Et moi, j'ai du mal, parce que je débute un petit peu dans cette approche-là, à le définir comparé à des troubles digestifs liés à un leaky gut, à une hyperperméabilité intestinale, où on peut retrouver aussi des douleurs digestives, du brain fog.
La constipation.
Constipation. De ce que j'avais... Bon, parce qu'on bosse un peu chez 1000%. J'ai vu que le symptôme... un des symptômes qui pouvait alerter, c'était vraiment cette sudation nocturne. Parce que du coup, il y a ce foie qui fonctionne. Et puis, si le foie est surchargé, les émonctoires vont se mettre plus...
Exactement. C'est une réaction qu'on appelle la réaction d'Herxheimer. En fait, c'est une libération des toxines dans la circulation qui peut générer comme une espèce comme une espèce de cirrhose, en fait, c'est ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire systémique où les gens peuvent vraiment se sentir très mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de détox. C'est qu'une détox, mettons, de métaux lourds où tu commences à jouer avec des molécules comme le DTA ou des chélateurs que tu injectes intraveineux, tu dois vraiment faire ça avec un médecin parce que tu vas tu peux excréter tes toxines ou tes métaux lourds de la périphérie.
Faire un choc.
Ils s'accumulent dans les graisses. Donc, tu vas les sortir de la graisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans la circulation. La concentration dans la circulation devient plus élevée que, par exemple, dans les tissus nobles comme le cerveau. Tu vas avoir un passage des métaux lourds dans le cerveau et tu fais des, t'as des gens qui font des graves problèmes là-dessus. Tu peux même mourir, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai qu'une, ces concepts de détox doivent être abordés par des gens qui connaissent ce qu'ils font. Et si tu commences à faire de la détox personnelle, c'est revenir un peu aux fondamentaux, quoi. C'est la perte de poids, une amélioration de la nutrition, etc. Mais si tu commences à te lancer dans des processus, parce que effectivement, des fois, c'est complexe, hein, la détox. Tu dois des fois aller dans des, tu dois déparasiter les gens, tu dois, je veux dire, moi, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis tout à fait conscient de l'importance de cette démarche. Et puis, tu dois faire des tests aussi.
Et donc, quel test pourrait t'amener à vraiment te dire, OK, cette personne, il faut qu'on mette en place un protocole de détoxification parce qu'elle a une vraie surcharge toxique?
Alors, tu vois, parce que si on revient au domaine de la détoxification hépatique, bah, tu as déjà quand même des biomarqueurs qui vont te montrer s'il y a une souffrance hépatique. Je dirais un peu le test du pot, mais c'est une des enzymes qui s'appelle l'ALAT. Parce qu'elle est très spécifique du foie, puis justement, dès que tu as une cytolyse, donc une cytolyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta cellule expose. Et puis, un peu comme toutes les cellules, dès qu'elles sont en danger, elles sont attaquées. À un moment donné, elles vont supporter, elles vont libérer leurs enzymes dans la circulation. Donc, l'ALAT, une augmentation de l'ALAT isolée va te montrer une atteinte hépatique chronique. Après, t'as tout plein de marqueurs, tu peux doser dans le sang. T'as la bilirubine, si ta bilirubine est augmentée, ça peut être un reflet soit ben justement d'un problème métabolique au niveau hépatique, ou alors d'une obstruction au niveau des voies biliaires. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le FIB score. C'est un score qui va justement doser certains facteurs de la coagulation, les plaquettes, donc les thrombocytes dans le sang, puis après qui peut te faire un score de risque de fibrose ou non. Mais ces scores, ils sont pas très sensibles ni spécifiques. Et maintenant, en fait, la grosse place, c'est l'imagerie. Ça serait de faire un... Ouais, bah, tu vois,
à partir du moment où il y a ces marqueurs...
Je bosse avec, tu vois, cette compagnie. Moi, je suis conseiller médical pour cette compagnie qui s'appelle Equilibrium Lab. Ils sont là au sommet de l'hypersanté, où ils proposent, en fait, eux, une solution que je trouve assez intéressante. C'est un peu ce qu'on appelle un companion diagnostic, c'est-à-dire qu'ils font... Ils font du scan, un fibroscan, donc ils te scannent ton foie, qui te permet de mesurer deux choses, c'est l'astéatose, donc une masse en graisse, ou la fibrose. Et puis,
c'est comme un dexascan du foie, en fait.
Tu vas voir
la composition, mais spécifique à l'organe.
Ouais, alors là, tu vas pas vraiment le voir comme une image. Le dexascan, c'est vraiment une imagerie. Mais là, c'est vraiment, c'est de l'ultrasonographie. Tu n'as pas une image, mais sur la base des vitesses d'ondes, etc., c'est une extrapolation, ça te donne un nombre. Et sur ce nombre, tu arrives à donner des pourcentages de risque. Alors, c'est pas aussi précis que, par exemple, maintenant, il y a un examen qui s'appelle le Gold Standard, maintenant, qui va sortir. Ça va être l'IRM hépatique avec une certaine phase d'acquisition qui te permet de voir aussi l'accumulation du fer dans le foie, qui est un gros problème. Mais cet examen, bah, vous voyez, ça prend 2 minutes, ça donne déjà une très très bonne information. Puis derrière, en fonction de savoir où t'es dans la zone verte, orange ou rouge, eh ben on a développé ensemble une élixir hépatique qui en fait combine 17 ingrédients qui justement agissent sur les différentes phases du foie.
Ok, et tout à l'heure, tu nous as dit les métaux lourds, c'est un peu spécifique sur la détoxification. Est-ce que tu pourrais nous faire une précision sur la surcharge toxique due aux métaux lourds?
Et juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on les attrape, ces métaux lourds? Il y a le téflon dans mes casseroles, ouais, mais dans quel autre composé?
Le plomb, les métaux lourds, t'en as dans l'eau, t'en as, on parlait des whey protéines et ces trucs, t'en as dans les suppléments que tu prends. Non, c'est vrai, le plomb, c'est
tout ce qui est transformé.
Ça s'accumule là-dedans, le mercure, ouais. Il y a tellement de choses.
C'est une vraie problématique de prendre des compléments alimentaires qui potentiellement sont contaminés, et toi, tu prends tes compléments pour faire ta détox.
C'est clair. C'est un des gros problèmes. Tu vois, c'est pas que je suis pro pharmacie, mais donc l'avantage des médicaments, c'est que c'est hautement régulé et que tu sais ce qu'il y a dedans. Le problème du supplément, moi, je suis premier à donner des suppléments aux gens, mais je sélectionne bien mes marques. pour qu'il soit vraiment testé, parce que il y a tellement d'études qui montrent que sur le supplément aux États-Unis, c'est Far West, parce que c'est pas contrôlé par la FDA. Ils disent c'est GMP, ça veut dire Good Manufacture Practice, mais en gros, ça veut pas grand chose, sincèrement. Et tu te retrouves des fois, tu prends par exemple la mélatonine, ils ont fait des essais là-dessus. Tu prends un supplément dans lequel, soi-disant, tu aurais 3 mg de mélatonine, ça peut être entre, t'en as 0 ou t'en as 10 fois plus.
Et tu prends 3 grammes d'aluminium en même temps.
Ouais, exact. Donc,
est-ce que tu peux préciser la dysfonction due aux métaux lourds qui vont venir être en compétition avec les minéraux enzymatiques de notre...
Ouais, exactement. Donc, ils vont remplacer certains minéraux dans les cofacteurs enzymatiques. Toi, tu remplaces le magnésium. Donc, en fait, les enzymes ou les protéines ne fonctionnent plus correctement. On parlait de la mitochondrie. Tu vas avoir une intoxication de la chaîne de transport des électrons. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir une fatigue généralisée parce que les gens ont une dysfonction mitochondriale. Tu peux avoir une accumulation de métaux lourds dans le cerveau, justement, parce qu'ils s'accumulent dans le gras. Donc, on a certains noyaux qui sont graisseux dans le cerveau, donc ça va s'accumuler là. Et puis, c'est ce qu'on disait avant, c'est toute l'idée, c'est d'éviter à tout prix de prendre de la graisse, parce que les métaux lourds, ça s'accumule dans les graisses. Donc, quand tu vas perdre du poids, les pertes de poids trop rapides peuvent libérer les métaux lourds, et ça peut être très grave aussi.
Et qu'est-ce que tu penses des vaccins? C'est pas savoir si t'es pour ou non les vaccins, hein. On n'est pas là pour discuter de ça, mais il y a certaines personnes qui diraient que ça, il y a des composés d'aluminium dans les vaccins, parce que c'est quand même directement injecté. C'est que c'est un sujet un peu touchy, mais comment tu vois ça?
Écoute, sincèrement, je suis pas suffisamment spécialiste. Je me suis pas vraiment plongé dans la littérature, parce que tu vois, pour faire une réponse claire, il faut vraiment bien lire les études. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un temps, on a incriminé certains vaccins qui étaient faits chez l'enfant avec l'autisme. Mais si tu reprends un peu les papiers qui un peu sérieux là-dessus, tu te rends compte que beaucoup d'enfants étaient déjà autistes. Donc moi, je suis ni pro-vax ni anti-vax. Je suis pro-science et ce que je vois, c'est quand même les vaccins qui ont été, tu vois, la rubéole, la rougeole, ça a quand même permis d'éradiquer des pathologies assez importantes. Après, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid, on peut discuter sur l'efficacité du vaccin, puis la façon dont il a été produit, parce que ça répond pas à la définition première d'un vaccin. Mais après, je pense que ça a sauvé certaines personnes. Tu vois,
non, je pensais plutôt sur la contamination possible et les composés volatiles.
Ici, on parle de l'autisme et de la progression exponentielle. J'avais vu des chiffres de 1960 où c'était x50, où c'était vraiment un chiffre énorme. Plus que la vaccination, ça va être l'exposition à toutes ces toxines
dans lesquelles on parle. L'exposé aux mycotoxines, et puis aussi l'épigénétique des parents, parce que je veux dire, tu vois, il n'y a pas que le génome des parents qui est transmis, mais aussi l'épigénétique, donc en fait le lifestyle des parents qui est transmis à l'enfant. Et ça, je pense que c'est clairement toutes les pathologies qu'on voit qui surgènent là actuellement, c'est des pathologies de civilisation. Et je pense que bravo pour ce que vous faites. Et puis je pense qu'on est tous passionnés de ce qu'on fait parce qu'on a envie de transmettre des informations pour éveiller les consciences face à en fait des maladies de civilisation.
Il faut prendre conscience que c'est notre mode de vie qui définit notre santé.
Ouais.
Et comme tu disais très justement, toi, tu es anesthésiste et tu disais que cette médecine avait prolongé l'espérance de vie sur des accidents, sur des infections aiguës. Mais la majorité des décès actuellement, c'est des maladies chroniques, cardiovasculaires, neurodégénératifs, diabète.
Si tu regardes, il y a un gap de
cancer.
Ce qu'on appelle, tu vois, la qualité de vie et puis la longueur de la vie, le health span et le lifespan, il y a maintenant un gap entre la qualité de vie et la longueur de la vie qui est à peu près de 15 ans, ce qui est énorme.
Oui, l'espérance de vie en bonne santé.
Voilà, c'est 15 ans de vie en mauvaise santé.
Et ça, on n'en veut pas chez 1000%.
Non. Ah bah non, moi non plus, mais j'aime bien votre concept de 1000% parce que mon concept à moi, dans mes pratiques, c'est parce que moi, je suis plutôt fan d'optimisation, mais c'est top 1%. C'est être dans le top 1% de la population. Tu ne veux pas être dans la moyenne. Parce que la moyenne est anormale.
Eh oui. c'est comme un peu bon, je sais pas si on va parler de ça, mais tu sais, les valeurs laboratoires sur les oui, sur les mesures et finalement les valeurs santé qui
qu'est-ce qui est optimal, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est optimal.
Exact, c'est normal
ça,
ou optimal.
Mais tout ça c'est la connaissance, hein, tu vois. Là on est vraiment très content de faire cette masterclass sur la détox pour vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne, et à partir de là on va avoir des clés. Quelles sont les clés pratiques de cette détox? Qu'est-ce qu'on fait?
La semaine du docteur Ador.
Comment on se détoxifie?
Bah, c'est
facile.
C'est facile. Ça dépend d'où tu pars, tu vois. Bah, parce qu'on en revient. Si tu dois faire une détox, bah, tu viens. Moi, j'avais fait des protocoles cliniques là-dessus. Bah, ça va être de réduire les calories, d'arrêter la nutrition processée. Ça va être d'avoir un apport suffisant quand même en protéines pour activer ces phases de détox, mais pas suractiver le foie et les processus inflammatoires, couper toutes les carbs raffinés. Ça va être de mettre les gens quand même en cétose, parce que la cétose a des bénéfices aussi anti-inflammatoires. En fait, ça active certains pathways qui sont bénéfiques dans ce cas précis. Ça va être essayer de les faire bouger, mais tu vois, si tu prends quelqu'un qui est obèse, qui est complètement désafférenté, l'exercice, ça va peut-être être tout bêtement de la marche, tu vois, au début, quoi. Et commencer de faire un peu de la musculation, essayer d'améliorer le sommeil, déstresser les gens, tu vois, contraste thermique, sauna, bain froid, photobiomodulation, les panneaux qu'il y a ici, pour essayer de réactiver les mitochondries. Tout le principe va être de réussir à refaire fonctionner de manière optimale ton organisme.
Et ça, c'est la phase 1. Et en fait, on n'est pas sur des procédés si complexes que ça, où faut aller chercher une molécule de fou. C'est fou de revenir toujours sur la base.
Les molécules, tu vas te les apporter par la nutrition qui est correcte, mais ça veut dire qu'on va bien donner, tu vois, les herbes de Provence, les baies pour les polyphénols, du café dans des bonnes conditions, du thé vert, super. Épicatéchine galate, la CGC qui active certaines voies métaboliques qui diminuent le foie gras. Ça va être de peut-être combiné, bah, tu vois, moi, je suis avec eux, moi, c'est mon conflit d'intérêt, je le déclare, mais je suis dans le board de Deliverance. Bah, si quelqu'un doit venir pour une détox, je vais lui donner deux élixirs par jour, matin, soir.
Il y a quoi dans cet élixir, là? C'est quoi cette potion magique?
Bah, c'est une combinaison de différentes molécules, dont une qui s'appelle le cyanol, c'est un extrait d'algues. Puis il y a de l'astragalus, il y a du ginseng, il y a de la menthe sauvage, il y a de la sauge rouge, il y a du miel, il y a du romarin. Il y a quoi encore? Il y a du curcuma, de l'astragale, du kudzu. C'est toutes des molécules qu'il a bien étudiées sur l'aspect potentiel, justement, positif pour le foie. Et puis, en fait, leur combinaison, il a donné nom à une. En fait, il a breveté ça, le rilazatutem. Et puis, c'est très marqué comme étant cette blend de 17 molécules.
Tu vois, souvent, on entend aussi des draineurs hépatiques ou tu vois, des aliments comme les crucifères qui vont activer le foie.
C'est juste parce que les crucifères, dont le sulforaphane, il active cette phase 2. Il permet de booster, tu vois, comme toutes les crucifères, donc les choux de Bruxelles, l'ail, etc. Donc c'est effectivement des molécules qui agissent à certaines régions de la phase de détoxification. Moi, ce que je pense qu'on oublie, c'est que c'est jamais unique. C'est tellement vaste, quoi. C'est pour ça que si tu veux le manger, quand on parle basiquement, on dit mange l'arc-en-ciel. Mais c'est juste parce que chaque aliment avec sa couleur va t'apporter différents trucs. Et il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas si vous l'avez vue il y a quelques années, mais c'était durant le Covid, je crois, Joy, en Angleterre et à New York, là, avec Tim Spector, professeur Tim Spector. Il a juste mis en évidence que pour avoir un microbiome le plus sain possible et puis améliorer justement tout ça, ces fonctions hépatiques, ben, c'est de manger 30 variétés d'herbes, fruits, légumes par semaine. Et quand tu réfléchis, c'est quand même beaucoup.
Oui.
Alors moi, je les intègre parce que tu as les herbes de Provence, tu as du thym, du romarin, de la sauge, etc. Mais les gens mangent très pauvrement. Je pense qu'il y a des gens
peu de diversification.
Manger sainement pour eux, ça va être par exemple manger une salade tomate mozzarella tous les soirs parce qu'ils aiment ça, avec un petit peu de basilic, zéro herbe, jamais de poivre. Le poivre aussi, super pour l'activation. Et c'est là où, en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent c'est plutôt par méconnaissance, mais qui pensent bien faire et qui, en fait, à la longue, sur le long terme, accumulent des graves carences.
Essayer de suivre les saisons, en fait. Les saisons nous amènent aussi à diversifier notre alimentation, C'était Docteur Mouton qui nous parlait de ça. Il nous avait dit aussi pareil. Il demandait en fait à ses patients s'ils arrivaient à avoir 30 ou 50 aliments diversifiés. Ils n'y arrivent jamais. Et juste de suivre les saisons, c'est quand même, je pense, un conseil super sympa.
C'est ce qu'on fait avec ma femme. On va chez le maraîcher local, on achète des trucs un peu space, des trucs amers. Je revenais sur l'amertume, tu vois, des radis noirs et tout. Amertume, bon pour la sécrétion de la bile, etc. Donc moi, je fais un peu de... Les gens rigolent parce qu'ils disent, ouais, mais tu manges un peu tout le temps la même chose et tout. Et en fait, je mange assez varié. Et puis je fais ce qu'on appelle un petit peu de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire comprendre ce que tu as besoin, puis en fonction tu manges ce que tu as besoin par rapport à ton organisme. Et ça, des fois moi ça m'étonne. Si tu as trouvé quelque chose qui te correspond, à midi je mange quasiment tout le temps la même chose, avec plein, tu vois, je mange des baies rouges dans lesquelles je mets encore des graines du paradis, des herbes, du gingembre, des trucs, enfin c'est vraiment un espèce de super food.
Tu te régales, toi.
Et du coup c'est super bon. C'est bon pour ma santé, et puis c'est ce que ça t'enlève un peu ce côté, je trouve, de fatigue décisionnelle, de te demander ce que tu vas faire à manger. Moi ça me pose aucun problème à midi de manger un truc qui m'apporte l'énergie qu'il faut pour l'après-midi, que je trouve bon, dont je me lasse pas. De temps en temps, tu vois, je change, tu vas dire tous les X mois d'un truc ou selon les saisons, mais ça va très bien. Et je pense que les gens mettent trop d'émotionnel aussi, de complexité, et puis de manque de connaissance en fait de ce qu'ils ingurgitent.
Il faut sortir du goût instantané en fait, hein, de voilà, je prends quelque chose qui me fait plaisir sur le moment, mais le plaisir c'est aussi de se mettre des choses qui sont bonnes pour notre santé dans l'assiette, de se régaler autrement, et puis de découvrir aussi toutes les nuances de goût, et pas avoir un goût qui est randomisé où c'est toujours la même
chose. Et puis surtout se sortir du goût salé sucré. Parce que, tu vois, l'amertume, les gens n'aiment pas ce qui est amer ou ce qui est un peu... Les herbes, c'est trop âpre.
C'est de l'apprentissage, ça, hein.
C'est de l'apprentissage. Et c'est là qu'en fait, plus c'est... Tous ces goûts un peu complexes, l'acide du citron, etc., sont hyper bons pour nous. Alors que le sucre... On va pas faire une masterclass sur le sucre, mais tu vois, on parlait du foie. Bah, tu vois, les enfants, maintenant, toutes ces maladies qu'on appelle les muscle D, donc ces stéatoses hépatiques qu'on voit maintenant de plus en plus chez l'enfant.
La transition est magnifique, docteur Ador.
Parce que là, ça va être la deuxième partie du podcast. On a fait la détox, on a bien compris ce qu'on pouvait faire en place. On va conclure. Quel est ton conseil pour cette détox? Et puis après, on enchaînera sur un épisode sur le foie gras, le fructose et tout le métabolisme autour du foie.
Tu vois, mes conseils, ça revient à ce que j'ai dit là, juste basiquement, si on revient aux bases fondamentales, c'est d'essayer de comprendre comment optimiser sa nutrition. C'est de considérer que de faire de l'exercice et du mouvement quotidien, c'est un absolu fondamental. Et puis qu'effectivement, d'optimiser son sommeil. Vraiment d'essayer de d'optimiser non seulement la quantité mais la qualité, et puis d'aller le plus possible un peu à l'extérieur, quoi. Prendre l'air, parce que même si on dit ouais, une ville est polluée, même dans une ville polluée, l'air qui est à l'intérieur, qui ne circule pas, est pire que l'air externe.
Et écoutez 1000%, hein.
Écoutez 1000%, et d'ailleurs j'espère que vous allez mettre dans votre épisode le lien que je vais vous donner là. Je vais vous donner un lien pour un peu toute l'indication de où les gens peuvent me trouver, où ils peuvent me suivre pour mes réseaux.
Ta newsletter qui était sur le sujet du foie dernièrement.
Exact, ma newsletter, et puis aussi les différents produits que j'ai. Je suis en train de vendre un livre. J'ai des consultations online qu'on peut faire, j'ai les liens de tous mes réseaux.
T'as des retraites à 1000% peut-être.
Il y aura tout en description de toute façon, ouais. tout ce que tu fais, le lien de ton blog et aussi tes travaux et où te retrouver. Tu consultes ?
Ouais, alors je consulte online là pour comme je disais quoi, je fais des consultations de 45 minutes où justement tu vois, les gens peuvent m'envoyer un questionnaire à l'avance, puis après j'essaie de les aiguiller par rapport à ce qu'on a discuté. Consultation personnalisée, et puis je suis en train de monter une clinique à Lausanne, faire vraiment une clinique un peu next generation longévité, ou dosage de plusieurs biomarqueurs, de faire des analyses très très poussées, très détaillées, et puis d'avoir des interventions qui sont peut-être next generation. Tu vois, je parlais justement de la détox, moi je m'intéresse beaucoup au remplacement plasmatique thérapeutique, où en fait tu viens éliminer certaines molécules inflammatoires qui circulent dans ton sang, les cytokines, et tu remplaces ça, ton plasma, par de l'albumine. C'est des choses qui se font pas mal aux États-Unis, avec des résultats qui sont assez intéressants.
Mais écoute, c'était super. On va clôturer cet épisode magnifique sur la détox. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, suite au prochain épisode.
Allez, merci.
Allez, merci à toi.
Merci, salut.
Ciao tout le monde.